RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Fred Hermel, Yoann Crochet, Julien Laurence et Paulo Breitner. 0-0 entre l'Angleterre et la Finlande après 32 minutes de jeu. Toujours 1-0 pour les Pays-Bas face à la nationale Mannschaft. Justement, on parle de l'Angleterre avec Julien, Julien Laurence, Lee Carsley, sélectionneur par intérim. Invaincu, un match, une victoire, 2-0 contre la République d'Irlande. Il a fait une petite polémique quand même, mon cher Julien. Je voulais qu'on en parle rapidement aussi avant de développer ses idées.
Oui, effectivement, polémique pour Lee Carsley. Je pense qu'il avait vu venir dans un sens. C'est pour ça qu'il l'a, il a quasiment annoncé. Il a déclenché la polémique finalement lui-même avant la rencontre contre l'Irlande samedi, puisque donc lui, l'ancien international irlandais, puisque même s'il est né en Angleterre de parents anglais, ses grands-parents étaient irlandais, donc il a pu prendre la nationalité irlandaise. Et à l'époque, il n'était pas assez bon pour jouer pour l'Angleterre, mais assez bon pour jouer pour l'Irlande. Donc il a 40 sélections ou 39 sélections pour la République d'Irlande. Donc c'était assez un clin du destin, dans un sens que pour sa première comme sélectionneur, même intérimaire, de l'Angleterre, ce serait à Dublin contre l'Irlande, etc., etc. Donc la belle histoire dans un sens. Sauf que la belle histoire, elle a tourné aussi à la polémique, donc parce qu'il a annoncé avant qu'il chanterait pas l'hymne anglais, donc le God Save the King, avant la rencontre contre l'Irlande. Il s'est expliqué d'ailleurs. Il a dit voilà, même quand j'étais joueur, même quand j'ai porté le maillot de la République d'Irlande, je chantais pas l'hymne parce que je suis dans mon match, je suis concentré, je pense pas à chanter, c'est pas mon truc. Ça se respecte, ça s'entend, je pense. Sauf que ça a créé forcément une polémique assez incroyable en Angleterre, politisée forcément aussi. Bien sûr, les gens ont dit, bah alors s'il chante pas l'hymne national, il peut pas devenir sélectionneur à temps plein, permanent. Même si la fédération le souhaiterait, parce que c'est manquer de respect au roi, à la couronne d'Angleterre, au pays, etc. Blablabla. Donc voilà, malheureusement, il a commencé par une belle victoire, une très bonne première mi-temps, avec beaucoup de choses intéressantes tactiquement. Le placement de Trent Alexander-Arnold, qui est beaucoup plus comme à Liverpool, même s'il débute arrière droit, il entre beaucoup au milieu de terrain en phase de possession. On a vu Declan Rice un petit peu plus haut que d'habitude. On a vu Jack Grealish un peu en numéro 10, rôle libre dans un demi-espace gauche qu'il apprécie beaucoup, avec Gordon à sa gauche, qui est lui un pur ailier gauche. Donc il y a plein de choses vraiment intéressantes. Et pourtant, on a parlé beaucoup, beaucoup plus du fait qu'il n'ait pas chanté l'hymne que
Il ne peut pas assumer sa vraie position. J'ai du mal à le croire, parce qu'effectivement, il dit avant le coup d'envoi, je suis dans une bulle, je pense à la façon dont ça va se mettre en place. C'est pas la réalité, certainement, Julien. On est d'accord, quand même. Il voulait pas avoir de problème avec les Irlandais.
Je sais pas. Il chantait pas l'hymne irlandais non plus. Donc, est-ce que c'est parce qu'il était né en Angleterre? Après, t'as des joueurs qui chantent pas l'hymne, hein, c'est peut-être parce qu'ils sont concentrés. Ouais. Je sais pas. C'est pas un homme à problème. C'est un homme à conviction, je pense. Je le connais pas du tout, hein, mais il a plutôt l'air d'être un homme à conviction. S'il avait voulu marquer des points, il aurait chanté l'hymne, mais le fait qu'il ait pas voulu, je sais pas. C'est pas sa grand-mère ou son grand-père irlandais qui sont décédés depuis qui lui en aurait voulu. Ils sont pas là, ni ses parents. Enfin, je sais pas pourquoi il l'a pas voulu chanter. Donc, je pense qu'il était sincère quand il a expliqué pourquoi il allait pas le chanter.
Bon. Ouais, moi, c'est un débat éternel là-dessus, mais moi, j'aime bien quand même voir les joueurs, les sélectionneurs.
Après, tu fais ce que tu veux, non ?
Moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas parce que tu chantes pas que ton pays, tu le représentes pas.
Mais
effectivement, ta façon de dépasser sur le terrain,
bien sûr. Ton comportement. Mais
en France, il y a des polémiques avec Christian Carambeu, mais pour l'autre raison également. C'est des raisons politiques.
Oui, voilà, mais Karim
chantait pas non plus l'hymne national. Voilà, c'est parce que. Non, mais après, c'est marrant parce qu'après, donc, les débuteurs pour l'Angleterre, c'était les deux anciens internationaux irlandais, Rice et Grealish. Rice a pas célébré son but. Il a fait avec ses mains. Il a fait genre je m'excuse, pardon. Voilà. Il a expliqué après que il aurait trouvé ça un manque de respect envers sa famille à lui, ses grands-parents paternels qui étaient irlandais, etc. Même s'ils sont décédés depuis. Grealish, lui, il a célébré son but comme s'il avait marqué contre une autre équipe, quoi. Donc c'est pareil. Chacun. Tu peux pas en vouloir à Grealish pour célébrer un but. Clairement, après sa frustration de ne pas avoir été sélectionné pour l'Euro, par exemple, et Rice d'avoir préféré ne pas célébrer un but qui, pourtant, pour lui, j'imagine, vaut beaucoup. Marquer pour ton pays, c'est peu importe contre quel adversaire, ça, c'est très important. Donc, pour moi, le chanter l'hymne ou pas, c'est un peu pareil aussi.
Après, c'était un acte manqué, mais avant le match, il s'est trompé de banc également, Lee Carsley.
Oui, voilà, c'est marrant.
Irlandais, alors qu'il devait prendre place sur le banc anglais. Johan, l'Italie, on en a parlé avec David Fratesi, parlons de la nationale, la sélection dans son ensemble. Deux matchs, deux victoires, après un euro manqué, raté, catastrophique, peut-être le pire de l'histoire. S'il fallait donner des bons points sur ces deux matchs, à qui faudrait-il les donner ?
Il y a pas mal de joueurs qu'on a vus, revus, découverts à cet échelon-là, au niveau de la sélection, qui ont marqué des points. Il y en a d'autres pour qui ça va être un peu plus difficile, même si pour moi, je pense que ceux qui ont un peu raté leurs deux matchs, ou un des deux matchs, ne vont pas disparaître de la sélection de Spalletti. Mais c'est clair que dans la hiérarchie, dans la confiance qu'ils peuvent avoir sur leur possibilité de jouer titulaire, ça va être un peu amoindri. Du côté des grands gagnants, évidemment, c'est le milieu de terrain complet sur ces deux matchs qui n'a pas bougé. Ricci devant la défense, le joueur du Torino. Et puis Tonali et donc Davide Fratesi. Même si on imagine qu'avec le retour de Barella, c'est Fratesi qui va sauter et qui va retrouver un petit peu le banc de touche. Ce milieu de terrain-là s'est montré à la hauteur aussi bien contre la France que contre Israël, dans des configurations de match un peu différentes, dans la gestion du ballon, dans le contrôle du match, dans la gestion des émotions aussi, dans la capacité à faire mal, à être aussi dynamique, à être toujours en mouvement, à toujours créer une solution pour le porteur de balle, à redescendre, à s'insérer, à se projeter. Vraiment, il y a eu des choses très très intéressantes. Du côté des joueurs qui ont marqué des points, et pour moi c'est vraiment indiscutable aussi, c'est Calafiori, qui maintenant est passé chez Julien Laurence, qui a été génial, et reprenait le débrief qu'on avait fait du match contre la France sur le rôle hybride qu'il avait eu en phase de possession, où d'abord, en première mi-temps, il était très écarté sur le côté gauche pour donner une solution de sortie vers Di Marco ensuite, qui était un peu plus haut, et où, quand Samuel Ricci était pris en individuel par Griezmann, Spalletti a fait le changement en le mettant dans l'axe, vraiment, au poste de numéro 6, et avec sa capacité technique à bien orienter, à bien voir les situations, à être juste techniquement, il a fait la différence. Donc, à la fois sur la partie défensive, mais la partie construction du jeu, il était très important. Buongiorno, hier, a fait un très bon match, qui remplaçait donc Calafiori, qui s'était blessé contre l'équipe de France. Buongiorno, dans un style très différent, beaucoup plus stopper à l'ancienne, dur sur l'homme, agressif. Il a été très très bon, style vraiment très opposé de Calafiori. Du côté des joueurs qu'on n'imagine pas forcément titulaires tout de suite ou qui vont se battre pour un poste, Raspadori et Kin, hier, ont fait un bon match contre Israël. Moïse Kin, qu'on n'avait pas vu depuis maintenant pas mal de temps. Et c'est sans tout ça, Scamacca, Scalvini blessé, Chiesa qui a été laissé pour faire une préparation avec Liverpool, Barella blessé, Locatelli qu'il n'a pas pris parce qu'il estime qu'il connaît ce qu'il peut apporter et qu'il avait envie de voir d'autres profils qui peuvent encore, il estime que Locatelli, son jeu est très codifié, qu'il ne changera pas aujourd'hui. Spalletti estime ça de Locatelli au milieu de terrain de la Juve. Il estime que Ricci, Fratesi, Tonali peuvent apporter autre chose et peuvent faire évoluer leur jeu. Donc il y a quand même, dans ce fameux réservoir, se disant qu'il n'existe jamais en Italie, il y a quand même des joueurs intéressants. Sur les joueurs qui ont raté un peu leur prestation, Pellegrini, lors de la première mi-temps, il n'a joué qu'une mi-temps, il est sorti un peu blessé contre l'équipe de France. Pellegrini, c'est vraiment très paradoxal parce que c'est un des joueurs les plus créatifs de la Nazionale. Quand vous prenez l'ouverture qu'il fait en étant arrêté pour la tête de Cambiaso qui donne sur la tête de Fratesi qui fait la barre contre l'équipe de France en tout début de match, Fratesi d'ailleurs qui était encore là présent pour conclure, il y a très peu de joueurs qui sont capables de mettre un ballon parfait comme ça sur la tête de Cambiaso, sur un mouvement renversé. Par contre, il a des vrais trous où il disparaît totalement, où il n'a pas la bonne attitude, il a passé son temps par terre, à réclamer des fautes, à pester après l'arbitre, ça plaît pas forcément à Spalletti qui attendait une autre attitude. Et en plus, moi, il y a un truc qui me frappe chez ce joueur-là, c'est un joueur qui ne sourit jamais. Alors effectivement, il est romain, et les romains sont un peu particuliers, on a toujours l'image du romain extravagant, qui hurle dans la rue. C'est très différent. Les Romains sont très mélancoliques. Parfois, ils peuvent être très fermés aussi en privé. C'est un peu l'histoire de la descendance du peuple déchu. On était tout, maintenant on n'est rien. On est un peu comme ça.
La chute en purement, ça date quand même.
Ouais, mais ça transmet, hein, des générations. Ouais, c'est vraiment un truc qu'on voit. Moi, qui me choque chez lui, t'as envie de dire, garçon, souris un peu à ton football, à la vie, et peut-être que ça ira mieux parfois, quoi. Donc il y a Pellegrini.
Pour certains, sourire est une faiblesse désormais, même dans le foot. Hein.
Ouais, oui,
Benzema ne souriait pas beaucoup, par exemple.
Quoi. C'est sa personnalité.
Et notamment en défense, je termine là-dessus. Outre Belanova qui a pas fait un bon match contre Israël, mais a priori c'est quand même plutôt bouclé pour Cambiaso. Il y a quand même Gatti et Di Lorenzo où il y a pas mal de questions. Parce que sur ce poste de défenseur central axe droit, c'était déjà galère à l'Euro, c'était galère avant l'Euro, et c'est encore galère après l'Euro. Mancini avait raté son match contre la Suisse, il n'avait pas été bon à l'Euro. Di Lorenzo a été catastrophique contre l'Espagne, il a été catastrophique contre la France dans l'utilisation du ballon. L'ouverture du score de Barcola vient évidemment de son truc hallucinant. Mauvaise gestion du ballon. Et Gatti contre Israël n'a pas été bon. Donc, si avec Calafiori, Bastoni, on a des super joueurs, Buongiorno a fait une bonne aussi entrée, enfin une bonne titularisation à la place de Calafiori sur le deuxième match. Les droitiers en défense, il y en a. Alors, on va espérer sur le retour de Scalvini, mais je suis même pas certain que ça suffise.
Voilà, donc pour le bilan de Johan sur ces deux matchs de la nationale. Et tiens, l'heure de la troisième minute, je rappelle que l'Allemagne a égalisé hein, face aux Pays-Bas.
Exactement.
Grâce à Denise Undav, qui a égalisé à la 38e minute de jeu.
Et notre ami Ronald Koeman et son délire de mettre Jurrien Timber à air gauche continue.
Inquiétude également pour Nathan Aké. Exactement. Sur blessure, Julien, ça n'a pas dû lui échapper également. La troisième minute de la soirée est espagnole. On envoie la musique. Barnabé.
Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito.
Atahualpa Yupanqui, l'un des plus grands chanteurs argentins de l'histoire, indigène, d'où ça, il n'a pas un nom, il n'a pas un nom espagnol, Atahualpa Yupanqui, donc vous êtes parti des rares indiens qui restaient en Argentine, c'est un descendant. C'est une chanson très célèbre qu'il n'a pas écrite, mais qu'il a entendu d'une vieille femme qui chantait ça à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, une femme noire, descendante d'esclaves. Et c'est une chanson qui parle des descendants d'esclaves qui, même après avoir été affranchis, travaillaient pour peu d'argent dans les champs. Et la chanson, c'est la maman qui dit à son petit garçon, dors petit noir. Enfin, c'est la voisine qui s'occupe. Il dit, ta maman va revenir, elle va te ramener ça, parce que la mère, elle travaille, etc. Donc c'est une grande chanson de la souffrance du peuple noir en Amérique latine. Et d'ailleurs, le mot negrito, petit noir, est passé, c'est un mot de tendresse qui est passé dans le langage, dans l'espagnol courant en Amérique latine, quand on veut dire mon pote, mon ami, mon enfant, c'est negrito. On se souvient que Cavani avait eu quelques problèmes en Angleterre quand il avait utilisé ce mot-là. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on va encore parler du racisme et des Noirs qui subissent le racisme. Il y a une déclaration, il y a une interview de Vinicius à CNN lors du dernier break international où il a dit quelque chose de très fort qui a fait un scandale énorme en Espagne, disant qu'il y a un vrai problème de racisme dans le foot espagnol et que si ce problème-là ne s'arrange pas d'ici au Mondial 2030, il faut enlever le Mondial à l'Espagne qui, je vous le rappelle, co-organise avec le Portugal et le Maroc. Vous imaginez ce qui s'est passé en Espagne, on l'a accusé de choses, alors qu'il a raison de dire oui, il y a un problème. Ça s'est amélioré, mais là, depuis quelques années, c'est terrible ce qui se passe en Espagne. Et résultat, trois jours après, en deuxième division, lors du grand match contre le Sporting Gijón et Oviedo, eh ben, il y a eu de nouveau des cris racistes contre un joueur maghrébin d'Oviedo. Je vais pas dire ce qu'ils ont été dit, mais voilà, ce qui est en espagnol, c'est très mal dit. Donc voilà, Vinicius a raison de dénoncer ça. Et tant que l'Espagne ne reprendra pas le pouvoir sur ce sujet-là, ne nettoiera pas de nouveau ces stades, eh ben oui, l'image de l'Espagne sera détériorée au niveau international. Alors je ne sais pas si le mondial sera en danger, mais en tout cas, on a raison de se poser la question.
C'est la minute de Fred. 2-1 pour l'Allemagne désormais. Kimmich, le capitaine, a marqué pour les Allemands. Ils étaient menés à 0, ils mènent 2-1 désormais.
Pourquoi tu hurles quand tu parles allemand?
Kimmich, parce que j'ai fait allemand et j'aime bien dire Kimmich.
Deuxième langue?
Deuxième langue, 16 au bac, à l'oral, messieurs.
Ah, 14 à l'écrit.
Sur un texte qui s'appelait Diplomaten auf dem Fahrrad. Diplomate qui était à vélo en Allemagne, voilà. Pas intéressant du tout. On revient dans un instant, pause. Restez avec nous, la suite c'est avec les drôles de dames dans un instant.
Génération After.